بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous permet ce soir de consacrer 20 minutes de notre soirée à étudier un des noms d'Allah, Allah qui est Ash-Shafi. Et Ash-Shafi, ça veut dire quoi? Celui qui accorde la santé. Et comment on dit la santé en arabe? Ash-Shifa. L'auteur commence l'étude de ce nom d'Allah en rappelant wa in sa'alta 'an shifa'ihi fa innahu subhanahu wa ta'ala huwa ash-shafi al-haqiqi li kulli 'ahatin wa marad. Sache que si tu t'interroges sur cette qualité d'Allah qui est ash-shafi, sache que Allah azza wa jall est le seul qui accorde la santé. Il cite ensuite le verset de la sourate Ash-Shu'ara où Ibrahim alayhi salam dit wa idha maridtu fa huwa yashfin. Le sens du verset est si je suis malade, ou alors lorsque je suis malade, fa huwa yashfin, c'est lui qui m'accorde la santé. Sans entrer dans le tafsir des versets de ce verset, les mufassirin disent que lorsque d'accord, il n'y a pas de souci. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il parle de la maladie, il dit wa idha maridtu, il dit que lorsque je suis malade, par respect, il ne dit pas lorsqu'Allah m'éprouve par la maladie. Par contre, quand il s'agit de la santé, fa huwa yashfin. Et vous savez qu'en arabe, on n'a pas besoin de préciser le pronom personnel. Quand on a une phrase, conjuguée, on n'a pas besoin de mentionner le huwa, le pronom personnel, sauf si on veut montrer quoi? L'insistance. C'est lui, c'est-à-dire c'est uniquement lui qui m'accorde la santé. Donc l'auteur démarre ce chapitre en commençant par ce verset, qui est l'objectif ultime de l'étude de ce nom d'Allah, c'est que le cœur reste confiant et soit persuadé que la maladie est dans les mains d'Allah et la santé est dans les mains d'Allah, que rien n'est impossible pour Allah. Le prophète alayhi salat wa salam nous a rappelé dans un hadith que chaque maladie qu'Allah a envoyée sur terre, je reprends, pour chaque maladie qu'Allah a envoyée sur terre, Allah a également révélé le shifa, le remède. Ce qui veut dire qu'il y a un terme, un adjectif qu'on utilise en français, on parle de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Alhamdulillah. Quel que soit le problème de santé, qu'il soit viral, bactériologique, qu'il soit, Allah protège, un problème de cellules qui devient cancer ou autre chose, ce sont des maladies qu'Allah a envoyées. Et le hadith stipule bien que pour chaque maladie qu'Allah a envoyée sur terre, ça veut bien dire que la maladie, elle vient d'Allah. C'est Allah qui décide d'éprouver ses serviteurs par un problème dans son corps, de le fonctionnement du corps qu'Allah a créé. Normalement, ce corps est prévu fonctionner de façon correcte, avec un certain équilibre, où, mashallah, chaque organe accomplit sa mission sans que tu en aies conscient. C'est parfait, shukran. Sans que tu t'en rends compte, mashallah, ton estomac fait le travail, ton foie fait le... Vous vous imaginez le travail du foie? Si on peut, entre mi-temps de certains matchs sans intérêt, essayons de lire un petit peu des articles sur le foie. Il fait incroyable. Autant on connaît la foi, mais il faudrait apprendre à connaître également le foie. Subhanallah, le travail qu'il fait, c'est comme une usine d'épuration. Ajib, les reins, subhanallah, le travail des reins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de purifier ton sang et d'évacuer les impuretés. Ajib. Hada khalqullah. Donc, je reprends. Ce corps, normalement, il fonctionne de façon équilibrée, autonome, comme Allah l'a créé. Et quand Allah décide d'éprouver un serviteur, Allah envoie une épreuve dans ce corps. Ça peut être au niveau de ses organes ou alors un facteur extérieur, le sang, ou ainsi de suite. Mais on retient, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ الشِّفَى بِيَدِ اللَّهِ. La santé, elle est uniquement dans les mains d'Allah. Deuxième point, l'auteur nous rappelle, إِذَا وَقَعْتُ فِي مَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شِفَاءِ أَحَدٌ غَيْرُهُ. Allez, on va continuer. Sache que si tu es atteint par un problème de santé quelconque, sache que Allah est le seul, ça rejoint le verset, qui peut t'accorder la santé avec ou sans intermédiaire et en fonction de sa volonté. En fonction de sa volonté. Le croyant, quand il a un problème de santé, donc plutôt que d'aller directement voir un médecin, ce qui n'est pas un problème, hein, ce qui n'est pas interdit, d'accord ? C'est ce qu'on appelle asbab, les moyens qu'Allah a mis sur terre. C'est ce qu'on appelle également sunnatullah. C'est de cette façon qu'Allah a organisé ce dunya. Le prophète a bien dit que Allah a envoyé le remède. Ah oui, la suite du hadith, alimahu man alimahu. Certains le connaissent et d'autres ne le connaissent pas. Les remèdes, certaines personnes connaissent le remède et d'autres l'ignorent. C'est-à-dire d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre, d'une culture à l'autre, il y a des gens qui connaissent un remède, ça peut être naturel ou un remède qui a été inventé contre tel problème. En tout cas, ce qu'on retient, pour revenir sur ce point, je n'avais pas complété le hadith, il n'existe pas de maladie incurable. Ça, c'est une certitude. Donc, la réaction du croyant, c'est effectivement, on est malade, avant d'aller voir un médecin ou aller aux urgences, c'est dans la mesure du possible, si on peut, on a la possibilité, on fait deux rakats, on demande à Allah la santé. Et on dit, oh Allah, accorde-moi la santé avec ou sans intermédiaire. Si c'est par un intermédiaire, oriente-moi vers la personne qui pourra m'apporter de l'aide. Et ensuite, tu vas voir ton médecin, tu prends le traitement, tu suis le traitement correctement en gardant confiance, en plaçant ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et pourquoi est-ce qu'on précise ça? On va un peu dans les détails dès le départ. Parce qu'on avait parlé du Mashi'a. Comment traduit Al-Mashi'a? Inch'Allah. Al-Mashi'a, on ne voit pas la même racine, selon la volonté d'Allah, le bon vouloir de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'une personne peut demander doua pour un problème de santé des jours, des semaines, des mois, des années. Une personne peut demander doua pour un problème de santé devant la Kaaba, devant le Multazam, le jour d'Arafat, dans des situations où les doua sont acceptées par Allah Azza wa Jal. La personne peut transiter, peut passer par des gens pieux. Des gens pieux et qui demandent doigts pour nous. Mais en finalité, si Allah a décidé que ce problème de santé qui te touche ne doit pas te quitter, c'est que Allah l'a décrété pour une sagesse, une bonne raison, une sagesse. Parce qu'Allah est Hakim. Allah est Shafi, hein, ya Ali. Allah, c'est celui qui donne la santé. Allah également Al-Hakim, celui qui est sage. Qui est sage dans toutes les décisions qu'il prend. Allah également Al-Latif, le bienveillant, celui qui prend les décisions les meilleures pour chacun de ses serviteurs en fonction de son état, de sa situation, de ses besoins, de ses manquements. Des fois, notre Seigneur voit en nous un manquement de notre spiritualité, de notre lien avec lui. Il y a des erreurs, il y a des manquements. Allah envoie une difficulté, ce qui peut être la maladie, on va rester sur cet exemple, hein, parmi toutes les épreuves. Allah envoie ce problème-là pour que tu réalises que finalement tu n'es qu'un mortel. Quand tout nous réussit, quand on réussit tout ce qu'on fait, on gagne bien sa vie, tout marche, ça roule, mashallah, des fois l'être humain sombre dans la rafla, dans l'insouciance. Quand tu n'as aucun problème, des fois, tu te sens intouchable, supérieur, et avance, et ainsi de suite. Mais il suffit qu'il y ait un petit caillou de le roulement pour que le croyant se remet en question et se remet en cause et réalise que finalement, je ne suis qu'un être humain et j'ai des défaillances et cette situation-là, ensuite, si la personne est bien conseillée, il va savoir que c'est une épreuve qui vient d'Allah et c'est le moment de m'orienter vers mon Seigneur pour qu'il m'accorde la santé, pour qu'il me délivre de cette difficulté. Et de cette façon également, dans ces moments de difficulté, ce croyant va réaliser, il va faire qadar. C'est de l'arabe, ça, hein? C'est pas que d'urdu, faire qadar de quelque chose. Hein? D'où le verset وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Faire qadar de cette période où, mashallah, je me levais à 5h-10, je déboulais les escaliers, je venais à la masjid en marchant, grande vitesse, je priais, j'allais acheter mon pain, j'amenais le pain à la maison, les enfants mangeaient et j'allais travailler, et ainsi de suite. Mashallah, plein de, c'était des bienfaits. Je n'avais pas réalisé que c'était des bienfaits. Pour moi, c'est la vie normale. C'est la vie de tout le monde. Ouais. Mais c'était un grand ni'ma qu'Allah t'a accordé. Et des fois, quand on est en difficulté, on réalise que subhanallah, c'était vraiment bien avant, quand je pouvais faire tout ça et ainsi de suite. Et on fait qadar. Et quand on retrouve la santé, on apprécie. Et on fait preuve de reconnaissance. Énormément de sagesse. Énormément de hikmah dans les épreuves qu'Allah nous envoie. Mais bien sûr, ne jamais demander à Allah des épreuves. Jamais dire, oh Allah, envoie-moi des épreuves pour que je revienne vers toi. Abadan. Jamais de la vie. Bil'aks. Demander à Allah al-afiyah. Ça, c'est la méthode prophétique. Demande à Allah la protection contre toute chose mauvaise. Et demande à Allah la santé, la stabilité, le bien-être. C'est-à-dire tout ce que le prophète alayhi salat wa sallam nous a enseigné. Et si malgré, et le mot malgré, c'est un peu exagéré, et si malgré tes invocations, Allah t'éprouve par quelque chose pour laquelle pourtant tu as demandé protection, sache que c'est une sagesse de ton Seigneur Azza wa Jal. Et Allah sait mieux qui il éprouve. Allez, on revient. Donc l'auteur dit bien que oui, quel que soit ton problème de santé, Allah est le seul qui peut t'accorder la santé selon son bon vouloir. Donc là on comprend le sens des doigts, des efforts, mais également le sens des asbab. Le fait que tu prennes ce médicament, tu suis ce traitement, tu vois un généraliste, un spécialiste, un deuxième, un chirurgien. Bref, il y a des fois où Allah nous protège, hein, des parcours médicaux qui sont interminables et en finalité, la personne se rend compte qu'aucun traitement ne marche. Pourtant, j'ai fait tout ce qui était humainement possible. Allah a décidé que ce problème va s'installer en toi. Et peut-être c'est ce qui te fera quitter ce dunya. Et peut-être que tu retrouveras la santé un jour. Qui est le prophète qui a été le plus éprouvé par la maladie? C'est bien de souffler comme ça? Tu penses que c'est une bonne action? Ça c'est mon élève ça. Je veux voir s'il a encore des bases. Hein? Rappelle-moi ton prénom. Oui, Al-Yamin. Hein? Oui. Ayoub alayhi salam. Et dans la Bible, Ayoub s'appelle comment? Job. Job. D'où le verset, hein, Ad-Dalil. Là, on s'adresse au Mufti. Ayoub, idnada Rabba. Ayoub, lorsqu'il invoqua son Seigneur. Regardez avec quelle humilité. Idnada Rabba. Et pas qu'il s'est plaint, moi, prophète de Dieu, moi, envoyé d'Allah, comment est-ce que je vais accomplir ma mission? Si je suis malade, et ainsi de suite. Idnada Rabba, anni massani ad-dur. Le sens du verset, que la difficulté, la maladie m'a atteint. Wa anta, Allah, Allah, Allah. Wa anta arhamur rahimin. Et c'est toi le clément, le miséricordieux. Allah est clément. Il s'oriente vers son Seigneur et il dit qu'Allah est clément, miséricordieux. Il dit Allah a décidé de m'accorder la santé, Allah m'accordera la santé. Naam. Qu'on réalise également à travers l'histoire des Anbiya, alayhim salat wa salam, qu'on réalise que les épreuves ont touché les prophètes. Et donc, que l'épreuve, ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas ou qu'Allah veut te punir. Non. Allah avait besoin de punir Ayoub? Non, jamais de la vie. Et qui était le prophète qui était le plus éprouvé de façon globale et générale? Toutes les épreuves qui avaient touché les différents prophètes, notre prophète Mohammed, alayhi salat wa salam, il en a eu un échantillon. Et c'était le prophète qui a été le plus éprouvé par Allah. Et ce qu'on a vu en sirat, qui était la mardi? Tu étais la mardi, sirat? Le prophète, salam, dès son plus jeune âge, a été éprouvé par le décès de ses proches. où il a perdu tout le monde, tout ce qu'il aimait. Et durant toute sa vie, il va perdre encore et encore. Il va perdre son oncle, son épouse, ses filles, ses fils et ainsi de suite. Ça, c'était les épreuves des Anbiya alayhi salat wa salam. On a un hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle nous enseigne un dua que le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de lire lorsqu'il rendait visite à un malade. Le dua est le suivant. Adhibil ba'sa rabban nas. Ô Seigneur des gens, repousse, enlève le mal. Ishfihi, accorde-lui la santé. Anta shafi, car c'est toi qui es ash-shafi, qui accorde la santé. La shifa illa shifa'uk. Il n'y a pas de santé si ce n'est celle qui vient de toi, celle que toi seul peux accorder. Shifa'al la yuradiru saqama, une santé qui ne laisse aucune maladie persister. Le sens à peu près de ce hadith. Donc c'est un doua qu'il est bien de mémoriser ou d'avoir sur son portable quand on rend visite à un malade. Ça fait partie des doua que le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de lire face à une personne éprouvée, une personne malade. Et ce doua, il est bien, à mon humble avis également, de, il faut le comprendre, ça c'est clair, hein, pour le lire avec conviction, il faut le comprendre, mais il est bien également de l'expliquer à la personne qui est éprouvée, personne qui est hospitalisée ou autre chose, pour que la personne prenne conscience que, voilà, cette épreuve, cette maladie, elle vient d'Allah. C'est tout ce qu'on a expliqué en introduction, d'accord? Parce que des fois, quand on est, vous savez, quand on est au plus profond de l'épreuve, vraiment, quand on, comme il dit en créole, quand on les donne dur, quand on est vraiment dans l'épreuve, là, soit tu as une épaisseur de foi, un socle de iman qui est, mashallah, présent, tellement solide, qui te permet de toujours orienter ton cœur vers Allah. Mais ça, c'est pas facile, ça. Et si c'est pas le cas, et que tu commences à vaciller, peut-être pas à douter, mais à perdre confiance, pas en Allah, mais à perdre confiance en, à perdre espoir plutôt, à perdre espoir, et à te demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi. Il y a des fois où la personne peut être dans un brouillard total, elle comprend plus, ma vie a basculé, je peux plus rien faire de ce que je faisais avant, ainsi de suite. Là, on a besoin d'un bon conseiller, d'un alim ou d'un homme pieux, ou quelqu'un qui a un minimum de connaissances religieuses, qui va te tendre une perche spirituelle. Une perche. Comme quand quelqu'un se noie, on lui tend une perche, ça lui permet de tenir et de s'en sortir. Une perche spirituelle, et entre autres, ce doua, c'est une aide, c'est comme une bouée de sauvetage également, pour que la personne réalise que tout est sous contrôle. C'est pas que tu es perdu, même si les médecins disent, c'est pas ce qui vous arrive, monsieur, ça, c'est pas en accord avec nos analyses, l'évolution de la maladie normale, ainsi de suite. Ne t'inquiète pas, même si les humains ne comprennent pas, tout est sous le contrôle de celui qui a créé ce problème et qui te l'a accordé. Pas qu'il a envoyé sur toi, qui te l'a accordé pour une sagesse qui est connue que de lui. Et donc, 19 minutes, tiens, bon timing, on fait encore 5 minutes au maximum, Inch'Allah. Allah peut accepter le doua d'une personne qui l'invoque pour retrouver la santé ou la santé d'un proche, ou ne pas l'accepter. Voyez notre prophète, alayhi salat wa salam, qui avait perdu un de ses fils. Il avait deux fils, prophète salam. Les noms? Ibrahim et Qasim. Certains disent Abdullah. Et un de ses enfants, je n'ai plus le nom en tête, mais j'ai le hadith, où on lui avait annoncé que l'enfant est malade, et puis annoncé que l'enfant est mourant, et ensuite qu'il est décédé. Vous pensez bien que le prophète alayhi salat wa salam avait fait doua pour son enfant. Mais quand Allah décide de ne pas exaucer un doua ou de ne pas changer une situation, cela appartient à Allah. Et le prophète alayhi salat wa salam a fait dire aux membres de sa famille que nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Wa kullu shay'in bi ajali musamma. Allah a tout créé, tout lui appartient et tout existe selon un décret qui appartient, qui est de la connaissance d'Allah. Azza wa Jal. Donc, même dans des situations extrêmes, là on ne dit pas qu'il a entendu que quelqu'un a été éprouvé, non, là on parle de son enfant. Et il a, j'allais dire, il est capable, subhanallah, il a cette réaction de foi exemplaire, où il oriente son cœur vers Allah, et il demande à tous les membres de sa famille également d'orienter leur cœur vers Allah, et de garder confiance sur cette décision douloureuse, grosse épreuve, mais qui vient de notre Seigneur qui est clément et miséricordieux. Naam. Et pareil pour l'épouse de Uthman ibn Affan, radiallahu anha, qui était malade juste avant la bataille de... Quelle bataille a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire? Badr al-Kubra. Juste avant Badr, l'épouse de Uthman était malade, et le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Uthman de rester à Madina auprès de son épouse, donc sa fille auprès... J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit l'épouse de Uthman, on est d'accord? On parle de la fille donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, pensez bien que le prophète a fait doua pour sa fille. Il était dans le chemin d'Allah, là c'était vraiment fi sabilillah, d'accord? Il a certainement demandé doua pour sa fille. Allah a décidé que sa fille quitte ce monde, malgré le doua de An-Nabi alayhi salatu wassalam. Khadija radiallahu anha, après le boycott des Banu Hashim, certains savants disent que, certains mu'arrikhin, que sa maladie, on parle de Khadija, sa maladie a commencé donc avec ce boycott, où ils n'avaient plus rien à manger, c'était une situation difficile. Et vous savez que Khadija n'était pas concernée par ce boycott. On verra ça en sirat bientôt, Inch'Allah, parce qu'elle ne faisait pas partie des Banu Hashim, mais elle avait suivi son mari par amour, An-Nabi Asa. Elle l'avait suivi par amour et elle a donc subi ce boycott. Et à l'issue de ces périodes difficiles, hein, elle était malade. Donc et là aussi, certainement, ça m'a fait doua pour Khadija, la mère de tous ses enfants. Allah a décidé que ces douas ont été entendus par Allah, mais que le malade ne retrouve pas la santé. Donc on réalise que même le meilleur des hommes a vu certainement ses invocations pour la santé ne pas trouver l'acceptation de la part d'Allah, parce qu'il y avait une sagesse divine derrière la maladie. Ensuite, Allah Azza wa Jal peut accorder la santé sans intermédiaire ou avec des intermédiaires. Avant la bataille de... j'ai un petit doute, c'est Tabouk, il me semble. Quelle bataille le prophète avait confié l'étendard à Ali? Tabouk, il me semble. Où le prophète alayhi salat wa salam avait dit aux sahaba, demain je vais confier l'étendard à un homme qui est aimé par Allah et son prophète. Tous les sahaba étaient motivés pour savoir le lendemain ce que ce sera eux. Et le prophète alayhi salat wa salam a cherché Ali, et on a dit qu'Ali est malade. Il avait un problème au niveau de son œil. Il avait un problème, je ne sais plus comment ça s'appelle, il avait un problème très grave. Et le prophète alayhi salat wa salam a mis un peu de salive, et Ali ibn Abi Talib a retrouvé la santé et la vue comme si de rien n'était. Et il a pu s'acquitter de sa mission. Donc des fois, sans intermédiaire extérieur ou avec des intermédiaires, Allah accorde la santé. Et une fois, il y avait une femme qui était très malade et qui faisait des crises. Et le prophète alayhi salat wa salam lui avait rendu visite. Je termine avec ce hadith pour qu'on voit un peu la sagesse qu'il y a, une des sagesses qu'il peut y avoir à travers les épreuves. Le prophète a été voir cette femme qui était malade, et elle a dit au prophète d'Allah, demande à Allah la santé, demande à Allah de m'accorder la santé. Le prophète alayhi salat wa salam, il a eu cette inspiration de la part d'Allah pour répondre à cette dame. In da'outu, si je demande à Allah de t'accorder la santé, il t'accordera la santé et tu retrouveras la santé. Ça vous va là? Est-ce que ça vous va? Bon, on va dire que c'est parfait. Et il a dit ensuite, mais si tu patientes et qu'on ne demande pas la santé pour toi, si tu patientes, falakil jannah. Si tu patientes, Allah t'accordera le jannah. Qu'est-ce que vous répondez? Allah ya Ali. Difficile, hein? Non, mais tu le dis. Allah te protège, Allah nous protège de situations d'épreuve. Mais la personne vraiment, difficulté, maladie, le prophète dit que si je fais doua, Allah t'accordera la santé tout de suite. Il y a qu'Allah mis de son cœur. C'est pas que le prophète, il pouvait dire ça à tout le monde. C'est à cet instant T, pour cette situation précise, Allah mis de son cœur que si tu demandes, j'accorde la santé à cette dame. Et elle était attentive. Et le prophète me dit, je répète, mais si tu fais preuve de patience et que tu ne demandes pas à être guéri tout de suite, falakil jannah. Sahabiya. Qu'est-ce qu'elle répond? Je patiente. Et ce hadith nous fait bien comprendre le quwwatul yaqin, cette conviction extraordinaire que les sahaba avaient en Allah, en les promesses de notre Seigneur, et le lien qu'ils faisaient entre ce monde et l'au-delà. Nous sommes à une époque où nous voulons le plaisir immédiat, oui ou non. Et nous voulons que tout se concrétise tout de suite. Mais il veut tout de suite, comme il dit en créole, comme un dit enfant capricieux. Il veut son PS5, il veut tout de suite. Il veut ça, il veut tout de suite. Nous, quand on a un problème, on veut que ce soit réglé rapidement. Trouve le monde qu'il faut et ainsi de suite. Parce qu'on n'arrive pas à faire le lien entre les difficultés de ce monde et leur aboutissement et l'ouverture dans l'au-delà. Et cette femme, elle a tout de suite compris que cette épreuve, c'est pour Moudjanna, du prophète d'Allah, je patiente. Elle dit juste que fais-toi que quand je tombe, je fais des crises, que mon satan ne se découvre pas. Et le prophète m'a fait droit pour ça, et elle était préservée de ça. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va voir, donc, on va essayer d'avancer un peu plus, et commenter le verset Ya Yuhanna, Surkhodja, Atkum, Mawa'idhatum mir Rabbikum, Washifa'u lima, Fissudu. Que de ce Coran, il y a la santé pour tout ce qu'il y a dans les poitrines. Et on va aller un petit peu plus vers les maladies spirituelles. Et après, on retournera un peu vers les maladies physiques. Donc, on essaie, bi'idnillah, d'avancer. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Et qu'Allah nous accorde la compréhension. La sincérité, la compréhension, la fermeté, la capacité de nous renforcer spirituellement, de placer notre confiance en lui, kullayom, et qu'Allah nous accorde la santé, et avant tout la protection, qu'Allah nous accorde la protection contre les maladies, et qu'Allah fasse descendre shifa, la santé, pour toutes les personnes qui sont éprouvées, qui sont malades. Et ceux qui ont quitté ce dunya, et c'était le thème de la dernière fois, quelqu'un qui est décédé après une longue période de maladie, après le Salat de Maghrib, j'étais voir un tonton que tout le monde connaît, que je vois tous les matins après Fajr en train de faire doigt sur le banc, il pleure parce que un membre de sa famille est décédé il y a 3 semaines. Et il me dit que depuis 20 ou 25 ans, en sortant de Fajr, ben, ils font le chemin ensemble, depuis Masjid jusqu'à, je pense, la boulangerie, rentrer chez eux. Famille, mais après vous connaissez, on peut avoir famille et on marche pas à côté de lui aussi, hein. Ça aussi, non, non. Là, c'était famille, mais avec un grand muhabbat, subhanallah. Et donc, il me disait que voilà, depuis combien d'années, tout et tout. Ben, cette personne est décédée également à l'issue d'une longue maladie, une maladie difficile. Mais nous, on a cette conviction que mourir à l'issue d'une maladie, c'est pas une mort, starfallah, disgracieuse, ou une mort triste, ou une mort dramatique. Non. C'est qu'Allah a voulu purifier ce serviteur, élever son grade, pour que le jour où il rencontre Allah, il le rencontre alors qu'il n'a plus de péché dans son livret de compte. Ça, c'est nazariya. Ça, c'est la compréhension de la vie que l'islam nous inculque. Ne pas voir les choses de façon dramatique. C'est pas quand tout va bien, on est heureux, on est content, là, ça va. Hein. Mais quand il y a un problème, c'est une catastrophe, on comprend plus, et là, on est attristé, on est, et ainsi de suite, on est dans la dépression. Non, de notre din, on nous apprend que quand tout va bien, Ushkurullah, remercie Allah. Et quand il y a une difficulté, orientons-nous vers Allah et demande-lui de l'aide. Et sache que les moments de bonheur, ça vient d'Allah. Les moments de difficulté, ça vient d'Allah. Le Prophète nous a dit que la situation du croyant, on complète avec ça, la situation du croyant, elle est unique. Parce que le croyant, il comprend le monde de façon unique. Ce que notre dîn nous a inculqué comme mode de vie, mais également mode de compréhension. Ce n'est pas uniquement la façon que tu pratiques, mais la façon que tu comprends le dunya et le lien avec le akhira, c'est unique ça. Quand le croyant a un bienfait, il remercie Allah et c'est une récompense pour lui. Tu as un bienfait et tu remercies Allah. Et le fait de remercier Allah, c'est déjà une source de récompense. Et quand on a une difficulté, sabara fakana khairallah. Il fait preuve de patience et il y a un bien pour lui, là aussi c'est source de récompense. On a fait un séminaire pour les jeunes ce samedi. On avait à peu près 300 enfants. Enfin, pas enfants. Il n'existe plus d'enfants de nos jours. Les petits-enfants sont déjà des ados, les ados sont des adultes, d'accord? 14 à 18 ans, c'est-à-dire les adolescents. On est dans les 4e, 3e, 2e, 1er, terminale. 300 de 5 madrasas de Saint-Denis. 5 madrasas de Saint-Denis. Ils étaient réunis dans la magnifique salle que nous avons, Caridor, qui est un grand bienfait pour la Jamaat. Et qu'Allah récompense les personnes qui ont œuvré pour construire cette salle qui permet certes de faire des mariages, d'accord, mais qui permet également aux professeurs de réunir les élèves pour leur donner un enseignement profitable sous forme de séminaire, conférence, sortir un peu du cadre de la madrasa. Et donc, à l'issue de ce séminaire, il y avait, enfin, tout au long du séminaire, il y avait des échanges, questions-réponses. Et il y a deux types de questions. On avait les questions anonymes. Parce que quand on donne un enfant un micro, il y en a qui ont un peu de courage, mais la plupart, bon, ils vont pas se mettre en avant et dire des, surtout quand c'est des sujets un peu délicats, ils vont pas le dire. Mais nous, on voulait vraiment débroussailler et voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et les questions anonymes ont été profitables. Et il y a une question qui m'a beaucoup touché, qui m'a franchement, subhanallah, ça m'a touché. Je me dis que Allah seul sait ce qu'il peut mettre dans le cœur des gens des fois. C'est une jeune fille qui écrit, bien sûr c'est anonyme, hein, il signe pas, donc je me permets de dire. Elle dit que depuis plusieurs années, j'ai été dans le haram avec un garçon. On est parti trop loin et pendant trop longtemps. Maintenant, je veux revenir vers Allah. Qu'est-ce que je peux faire? Si on aime juger les gens, on va dire que oui, mais comment as-tu pu accomplir le zina? C'est haram quand tu fais le zina, l'iman quitte ton corps, ainsi de suite. Est-ce que c'est le moment d'accabler la personne? Non. Moi, ce que je vois comme lumière, et que on a essayé de répondre ensemble, hein, avec les différents collègues, le simple fait qu'à un moment de ta vie, tu te remets en question, et là on parle d'un jeune 14-15 ans, qui sont vraiment dans des situations d'exposition au péché qui nous échappent et qui nous dépassent complètement. D'accord? Un jeune de 14-15 ans qui se demande, mais quel est le regard d'Allah sur moi à cet instant? Moi qui suis allé dans le haram, dans le péché, et j'aimerais qu'Allah m'accepte de nouveau. Et qui pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être de nouveau accepté par Allah? Moi je dis que ça, c'est déjà une lumière qu'Allah met de ton cœur pour que tu retournes vers lui. C'est le premier pas de ce qu'on appelle le Tawbatun Nasuha. Et le premier quoi, c'est quoi? Le premier pas, pardon, c'est quoi? C'est An-Nadam, les remords. Et là, elle a des remords. Elle regrette. Et donc, voilà, c'est notre jeunesse qu'il faut écouter, qu'il faut apprendre à écouter. Une jeunesse à qui on consacre du temps, où on enseigne ce qui est bien. Mais au-delà d'enseigner, il faut apprendre à écouter et répondre à le problème, qu'Allah Rabbul Izzah nous assiste et donne la hidayah à cette jeune fille pour qu'elle revienne vers Allah, et hidayah et protection à l'ensemble de nos enfants. Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillah Rabbil Izzakum akhir.